CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, une idée fulgurante. Une équipe pour le week-end. Un pitch enthousiaste. Et un jury impitoyable. L'équipe aujourd'hui d'Askritch, Chris O'Brien, Mira Chav et Savlarus. Nos invités sont les organisateurs du Startup Weekend Toulouse. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux, ce serait cool. Ok, alors c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Alors bonjour, moi c'est Xavier Mouton-Dubosc, à l'antenne et sur internet, mon pseudo c'est Daskritch, et moi je vous propose quelque chose. Je trouve que c'est dommage quand même que l'on ne parle pas du numérique d'une manière enthousiaste. Il y en a marre que d'avoir des visions négatives par la politique, contre le chiffrement, etc. Je veux donner de l'énergie, je veux faire une émission dans laquelle il y a de la joie, dans laquelle on ait envie de parler des gens qui font, des vrais makers, pas des commerciaux. Et voilà, et si vous avez envie de faire ça, ben rejoignez-moi, est-ce que vous êtes là?
Ouais.
Voilà, c'est CPU. Bonjour à tous. Bonjour Solarus, il est en train de se préparer et on n'a pas assez de micro. Bonjour Chris.
Bonjour Xavier.
Bonjour Myriam.
Bonjour.
Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui, aujourd'hui, est dans l'impatience de monter à de potentiels investisseurs ton superbe projet qui marine depuis si longtemps dans ta tête et que tu viens de finir de dessiner avec tes 12 feutres couleurs. Il fut un temps où la société de consommation était un rêve accessible par le plein emploi. Cette époque est désormais lointaine et s'est effondrée dans les années 70. Depuis le choc pétrolier, les pays européens sont tombés dans une ère de chômage de masse. Les solutions politiques furent rarement efficaces, des industries furent fermées par régions entières, fleurons ou pas, il y a eu de la casse sociale. Certaines étaient technologiquement dépassées. On avait beau les favoriser d'une manière ou d'une autre, via les commandes publiques, les subventions, une taxation ou une loi spéciale, les décisions politiques n'ont fait que retarder l'inéluctable. D'un autre côté, la création de nouvelles activités crée de nouveaux emplois. Et il est plus facile d'expérience d'innover en créant une nouvelle structure qu'en tentant de bouger une grosse et vénérable société de l'intérieur. On n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie, comme disait Niels Bohr ou Robert Bosch, je ne sais plus. Alors pourquoi ne pas devenir ton propre patron, créer une entreprise avec une mission, faire rêver, aider les gens, faciliter la vie, voire rendre heureux? À le dire tel que, au micro d'une radio de Rasta, on pourrait croire que j'ai trop tiré sur la ganja. Oui, ou, envisageons le pire, que j'ai revendu mon âme au BDF. Que nenni, le bonheur est de créer vaut plus que du bénéf. Le chômage... Non, elle est nulle.
Tu t'es surpassé là.
Le chômage n'est pas forcément la raison qui pousse des personnes actives à devenir entrepreneurs. Il y a aussi la lassitude de l'employeur, le besoin de bouger, une envie d'expérimenter, l'ambition de devenir un grand capitaine d'industrie, meilleur capitaine d'industrie que les patrons qui s'affichent en une du journal Challenge sur fond noir pour rappeler qu'il y a la casse sociale derrière. Bande de glands, bougez-vous le figuier, je vais ubériser le cerisier. Avec nous, ça va secouer le cocotier et pas que pour des nèfles. Pour cette release de notre programme CPU, l'équipe s'est déplacée avec le matériel, et croyez-moi que les pins micro en fonte, c'est lourd. L'équipe s'est déplacée pour enregistrer depuis le Startup Weekend de Toulouse, et au cas où vous ne le comprenez pas, on est depuis l'école E-Arts, c'est pour, d'où ces bruits de chaise. Car ici arrivent des personnes qui ont du talent et qui sont prêtes à être séduites par une idée. D'autres arrivent avec une idée et du talent, mais pas ce qu'il faut pour monter une entreprise. Pendant 54 heures, on a l'occasion de croiser des développeurs, des designers, des bricoleurs, des commerciaux qui veulent prendre pied. Des guerriers, et ces guerriers du week-end, c'est leur surnom officiel, vont devoir composer une équipe, accorder leur vision et construire une idée. On prototype une entreprise, rien ne dit qu'elle arrivera à terme. Mais si personne ne se lance, jamais l'idée ne se montrera au grand jour. Au terme... Oui, parce que les feuilles sont en désordre. Au terme du dimanche, cette idée de projet est présentée à des gens qui ont de la bouteille. Tel le jury de n'importe quel télécrochet, peut-être ce cœur fondateur va-t-il faire chavirer par leur voix le jury. Mais est-ce que le projet est viable? A-t-il une clientèle potentielle ? Combien cette clientèle est-elle prête à payer pour cette offre ? La start-up peut-elle y répondre dans un budget ? Une rentabilité raisonnable ? Est-ce qu'un papier écrit en un week-end et un concours de popularité sur un réseau social sont des arguments solides pour construire une entreprise, surtout dans un domaine où on parle d'innovation ? J'ai honte.
Non, c'est le patrimoine.
Ouais. Ah bah oui, on ne passe pas comme ça de prolétaire à mogul de la net économie aussi facilement. Et apprendre le management à la dure est à la fois la meilleure des écoles et la plus stressante. Dans l'immédiat et à l'heure où nous enregistrons, c'est-à-dire dimanche matin vers 11h30, une dizaine de projets sont en train de se construire et de prendre forme. Et à côté de nous, chacune des équipes, en fait, en dessus et au-dessous... Non, je me suis planté, hein.
Ouais, non.
Chacune des équipes répète chaque mot de son pitch, discute ardemment sur chaque lettre de sa présentation PowerPoint pour s'assurer qu'un accent ne mettra pas ringard l'argumentation à l'heure du débat sur la réforme de l'orthographe. Je vous vois froncer les sourcils en circonflexe, et pas que d'Emmanuel Chin, mais croyez-moi qu'un prototype, surtout un argument pour séduire un jury d'investigateurs et d'entreprises, ça ne se fait pas comme ça. Non, nous n'avons pas toujours l'idée de qui se démarquera, quel projet se montrera prometteur et quel sera le nom que tout le monde aura à la bouche dans 3 ans lors des soirées de l'ambassadeur au palais consulaire de rue Alsace-Lorraine, le siège social de la CCI à Toulouse. Enfin, du futur immédiat, n'oublie pas que le nombre de start-up qui ne réussissent pas est largement supérieur à celles qui s'en sortent. De toute façon, elles garderont le nom de start-up tant qu'elles n'auront pas prouvé que leur business plan est viable.
To a solo, get in the flow, and you can picture like a photo. Music makes mellow, maintains to make melodies for MCs, motivates to break some everlasting. I can go on for days and days with rhymes as blazed and engraved, deep as x-rays. I can take a phrase that's rarely heard, flip it, now it's a daily word. I can get iller than armor, killing a bomb, but no alarm. Rock him or remain calm. Self-esteem make me super superb and supreme. Before a microphone, still I fiend. This was a tape I wasn't supposed to break. I was supposed to wait, but let's motivate. I wanna see and keep following and swallowing. Taking the making, biting and following. Brothers try and others die to get the formula. But I'ma let you sweat, you still ain't warm. You a step away from frozen, stiff as if you're posing. Dig into my brain as the rhyme gets chosen. So follow me, or what you're thinking you were first. Let's travel at magnificent speeds around the universe. What could you say as the earth gets further and further away? Planets as small as the balls of clay, astray into the Milky Way. World's out of sight, far as the eye can see, not even a satellite. Now stop and turn around and look. As you stare in the darkness, your knowledge took. So keep staring, soon you suddenly see a star. You better follow it, cause it's the awe. This is a lesson if you're guessing it, if you're borrowing. Hurry, hurry, step right up and keep following the leader.
Follow the leader, rock chemistry. Follow the leader, rock chemistry. Follow the leader, rock chemistry.
Keep following,
rock chemistry. Follow the leader.
This is a lifetime mission, vision of prison. I listen. In this journey, you're the journal, I'm the journalist. Am I eternal or an eternalist? I'm about to flow long as I could possibly go. Keep you moving cause the crowd says so dance. Cuss, rip your pants, every beat on the blades bleeding to death, call an ambulance. Pull out my weapon and start to squeeze. A magnum as a microphone, murdering MCs. Let's quote a rhyme from a record I wrote.
Follow the leader.
Yeah, don't. Cause every time I stop, it seems you're stuck. Soon as you try to step off, you're self-destruct. I came to overcome before I'm gone. By showing and proving and letting knowledge be born. Then after that, I'll live forever. You disagree, you say never. Then follow me from century to century. You remember me in history, not a mystery or a memory. Called by nature, mind raised in Asia. Since you was tricked, I have to raise ya. From the cradle to the grave. But remember, you're not a slave, cause we was put here to be much more than that. But we couldn't see it because our mind was trapped. But I'm here to break away the chains, take away the pains, remake the brains, rebuild my name. I guess nobody told you a little knowledge is dangerous. It can't be mixed, diluted, it can't be changed. The switch, here's a lesson if you're guessing and following. Hurry, hurry, step right up, keep following the leader.
Follow the leader, rock chemistry. Follow the leader, rock chemistry. Follow the leader, rock chemistry.
a verified freestyle, lyrics of fury. My third eye make me shine like jewelry. You're just a renter rapper, your rhymes are minute made. I'll be here when it fade and watch it flip like a renegade. I can't wait to break and eliminate on every trade of a snake, so stay awake and follow because the tempo's a trail. The stage is a cage, the mic is a third rail. I'm Rakim, the fiend of a microphone, I'm not him. So leave my mic alone, soon as the beat is felt, I'm ready to go. So fasten your seatbelt, cause I'm about to flow.
Eric B and Rakim, Follow the Leader. Et accessoirement, c'était leur morceau qui servait de pitch. Ah oui, non mais ici, monsieur, la programmation musicale, on le fait pas au hasard. C'est CPU, carré petit utile, sur Radio FMR. Et on commence avec notre premier invité.
CPU, carré petit utile.
On aurait dû l'empêcher de boire du café. Myriam.
Julien Del Rio nous a rejoint. Tu es organisateur du Startup Weekend. Alors honnêtement, je ne sais pas trop ce que tu as fait avant, donc en deux minutes, tu vas nous dire.
Moi, je n'ai rien fait, je ne sers à rien. Je m'amuse pendant un week-end à déplacer des cartons. Alors moi, j'ai essayé un peu de faire des startups, enfin une startup. J'en ai une nouvelle en ce moment. Et le reste du temps, je suis développeur et je fais des applications mobiles, pour résumer.
Alors comment on devient un guerrier pro-startup ?
Ah, faut déjà s'ennuyer. Moi, je bosse 40 heures par semaine et je m'ennuie.
Faudrait une fois que je le dise à ton patron, celle-là.
C'est ça.
On t'a vu lever la main vendredi en disant je vais créer une boîte.
Il est au courant, il est au courant. Et justement, il me dit, mais tu pourrais plus bosser pour moi. Bon, on arrive à s'entendre quand même. Non, mais voilà, il faut avoir envie au départ de se bouger les fesses. Comme moi, on peut essayer de le faire au-delà du taf. C'est plutôt recommandé d'essayer de se lancer vraiment dans l'aventure. À temps complet, mais on y vient comme ça, je pense. Vraiment l'envie de se bouger les fesses avant tout.
Alors, Startup Weekend, ça existe depuis 6 ans sur Toulouse, c'est ça ? Mmh. Toi, ça fait combien de temps que tu as rejoint les équipes ?
Alors, moi, c'est mon deuxième en tant qu'organisateur. J'ai d'abord été participant, ce qui n'est pas le cas de tous les organisateurs. Je leur envoie un petit clin d'œil. Donc moi, ouais, c'est mon quatrième Startup Weekend. Et effectivement, sur Toulouse, il y en a eu 3 ou 4 avant. Effectivement, c'est la 7e année. On s'éclate. C'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Je suis là, milieu d'événements déjà complètement cramé, mais c'est vraiment que du plaisir, quoi.
Et à force, vous avez trouvé, parce que j'ai vu, il y a des slides qui sont passés sur comment faire le meilleur pitch possible. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous avez réussi à trouver comment détecter la bonne idée rapidement ?
Alors, on triche. On triche parce que déjà, comme Startup Weekend, c'est mondial, on se fait beaucoup, on prend des conseils d'un peu partout. Ouais. Mais à Toulouse, non.
Oui, c'est vraiment un événement mondial.
Ouais, complètement.
Ce week-end, il y en a combien en simultané ?
Je crois une trentaine. Il y en a une trentaine, dont un à Paris.
Qu'on éclipse, hein, on est plus gros que.
Ouais, c'est ça. Mais notre facilitateur a démarré le week-end avec la carte et il y avait un gros point sur Toulouse et qui cachait Paris. On était super contents.
Enfin, Big up.
C'est ça. Et donc ouais, pour les pitchs. En fait, non, justement, il y a pas de règles parce que en général, les meilleurs, c'est ceux qui sont capables de créer de l'émotion. Dans leur pitch, faire du business en créant de l'émotion, c'est souvent un peu la difficulté. Et c'est là où on voit les petits génies qui peuvent sortir du lot.
Mais c'est génial. Attends, business émotion, pour moi, c'est antinomique, quoi. Mais là, du coup,
ben non. Quand je vous dis que quand je dis que j'ai envie de me bouger les fesses, c'est justement parce que j'ai envie d'aller chercher autre chose que juste ma feuille de salaire à la fin du week-end, enfin du week-end, plutôt du mois. Parce que ça, si on pouvait être payé toutes les semaines, ce serait pratique. Mais ouais, donc c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Startup Weekend pour découvrir l'entrepreneuriat et qui ressortent en disant j'ai grandi, et il y a vraiment une expérience qui est vécue ici. Et c'est ça aussi qu'il faut être capable de retransmettre au moment des pitchs des projets. C'est de je suis pas juste venu là chercher de la main d'œuvre gratos pour mon projet, mais je viens vraiment vendre quelque chose avec les tripes. Et derrière, j'ai envie que ça vive. Et c'est ça aussi qu'on cherche à aider, quoi. C'est les projets qui veulent se lancer derrière.
Oui, les gens qui se rencontrent peuvent former leur équipe. Est-ce qu'il y a vous avez l'impression que sur les années, là, il y a eu des différences dans les équipes ? Est-ce que les gens sont plus amenés à se mélanger ? Est-ce qu'il y a plus de filles aussi ?
Cette année, on a l'impression qu'il y a une proportion de filles assez importante. Ce qui est assez dommage, c'est qu'elles se mettent dans les mêmes équipes. On a, je crois, 2 ou 3 équipes avec une forte concentration féminine et des équipes de bonhommes.
Des bonhommes, de tes
ouais, c'est ça. Ça fait des.
Ça
fait des réactions un peu bizarres en fonction des équipes. Non, mais c'est marrant. Du coup, l'approche n'est pas la même. Ça dépend des équipes. On sait qu'il y a des gens qui viennent pas dans le même état d'esprit, qui viennent pitcher. Par exemple, ben, si le vendredi, ils ont une minute pour vendre le concept au reste des participants pour monter une équipe. Et il y en a quand même certains qui viennent, qui pitchent. Et bon, ben, mon idée n'est pas prise, je me casse. C'est pas vraiment l'état d'esprit, parce que comme je vous disais, il y a vraiment une expérience. Et donc, l'idée, c'est qu'en général, si on a eu cette année, je crois, 37 pitchs d'une minute, on a gardé 12 projets. Donc, il y a quand même pas mal de déçus. Mais c'est vraiment là l'idée, c'est que si les mecs ils viennent dans une et les filles viennent dans un bon état d'esprit, normalement ils restent et ils contribuent à un autre projet, parce que de toute façon ils vont apprendre plein de choses qu'ils vont pouvoir réutiliser sur leur propre idée dès le lendemain, quoi.
Donc ça veut dire, si jamais on n'arrive pas au bout, c'est pas grave.
Mais non, mais clairement non. Et ce qui est marrant, c'est que sur Toulouse, les projets qui ont vécu un peu après, en général, on retrouve des projets qui durent un an et on retrouve des projets qui durent un peu plus. Là, il y en a qui sont encore vivants depuis la première édition, qui ont créé des emplois et ainsi de suite. Et ce n'est pas forcément les lauréats qui restent après des années. Ouais. Quoi.
Alors, on va profiter parce que c'est vrai que toi, tu es extrêmement connecté. Donc, tu t'occupes aussi de l'association des user groups Android. Tu es plus ou moins connecté justement là-dessus. Des anciens qui sont passés. D'abord, parlons des lauréats.
Alors, les lauréats, je ne vais pas être très bon parce que des premières années, parce que comme je n'étais pas là et je n'ai pas retrouvé... faudra demander aux médias locaux de garder leur compte-rendu de nos start-up week-ends, ça nous rendrait service.
Oui, communiquer presse, vite.
C'est ça. Et donc, les premières années, on a... Alors, je ne sais pas s'ils ont été lauréats, mais il y a, par exemple, Jimmy Ferli et My Feedback, qui sont encore de belles aventures. Et là, des années précédentes, bon, la première année où j'ai participé, je crois qu'ils avaient fini... deuxième, je suis même pas sûr qu'ils étaient dans les lauréats, mais il y a Citymeo qui fait des écrans connectés, qui carbure là ces derniers temps, ils sont en train de lever des fonds et on vient d'apprendre que Wilty, qui a participé il y a 2 ans, là aussi une équipe qui a pas été lauréate, qui rentre au camping à Paris. Donc c'est.
Qu'est-ce qu'ils vont tous à Paris après,
c'est ça? On leur demande de rester quand même. Ouais. On y est bien à Toulouse. Mais du coup, ils n'ont plus la Garonne, ils n'ont plus les Pyrénées. Non, ils restent
pas
longtemps.
Ils n'ont plus le stade toulousain. Ouais. Ils n'ont plus le bikini.
C'est ça. Donc non. Ils reviennent très vite, hein, en général, en tirant la gueule, mais mais ils reviennent. Et donc ouais, c'est difficile. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est que parfois, l'exercice fait que ceux qui sont lauréats sont pas forcément ceux qui se pérennisent, parce que c'est pas forcément aussi eux qui avaient prévu. Et ça aussi, il faut avoir la disponibilité pour faire perdurer le projet après, quoi.
C'est vrai qu'on a eu la semaine dernière, donc on a eu Lise Béjuin qui a monté une boîte dont l'idée était Kézakot, c'était pas le nom d'ailleurs,
c'était
présenté.
Loliplop,
elle a changé de nom entre-temps.
Ça
a gagné, L'année précédente, alors là, ça a été la grande surprise, c'était vraiment une idée qui était Brick and Mortar, c'est-à-dire on revenait vraiment dans le concept de magasin, et une idée qui était géniale, c'était l'impression de sucre en 3D.
Pip My Candy.
Et en plus, ils étaient en avance. C'était le premier projet en fait qui s'est monté là-dessus a été fait à Londres 10 mois après.
Alors en fait,
eux, ils ont explosé en plein vol.
Ça, c'est bien la preuve que à tous les gens qui, la petit message subliminal à ceux qui disent je veux pas parler de mon idée, je vais me la faire voler. Ça, c'est vraiment le contre-exemple. Voilà, faut arrêter. Eux, ils ont eu l'idée le vendredi en faisant la queue, parce qu'il y en avait un qui était venu avec sa gamine et l'autre il était maker. Donc il parle, la gamine qui voulait des sucreries, l'autre qui parle d'impression 3D. Mais c'est ça, il faut imprimer en 3D des bonbons. Et donc les mecs, ils ont pitché ça le vendredi. Et,
15 minutes après. Hein. Ça s'est vraiment fait
15 minutes après. Ouais. Et ils ont vraiment travaillé sur le week-end, parce qu'une idée, ça ne veut pas forcément dire un business, sur qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut créer un modèle économique autour. Ils étaient partis sur une franchise pour des boulangeries où la boulangerie s'équipe de l'imprimante 3D. Et puis eux, ils ont un store en ligne où tu peux imprimer tes créations et tu vas la récupérer à ta boulangerie du coin. c'était assez génial. Mais bon, typiquement, eux, ils n'avaient pas du tout prévu de lancer le business derrière. Et en fait, on s'est
rendu... Ils avaient trouvé le local, ils étaient allés super loin, quoi. Très vite dans le week-end.
Et ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, ils se sont revus un mois après et il n'y a pas eu la... Ils étaient, je crois, quasiment tous salariés. Donc, il y a eu quand même eu des freins, surtout pour un projet comme ça. Ce n'était pas juste une application mobile que tu peux faire le dimanche et voir comment ça vient. Et typiquement, donc, eux, il y a d'autres projets ailleurs qui ont émergé, des concurrents directs, alors sur du chocolat certains, sur du sucre, sur plein de composants différents, mais je ne pense pas qu'ils aient, se soient fait voler l'idée. Pour le coup, c'est juste que les gens ont eu les idées en parallèle.
Comme dit Google, ils ont réutilisé le terme gelstat, c'est vraiment ça, ça flotte dans l'air depuis un bail.
Exactement.
Ouais. Oui, et puis tu t'en empares ou pas, quoi. Après, c'est ça, c'est la différence entre un entrepreneur et un gars lambda qui va avoir une idée et puis il va se dire elle est géniale, mais finalement, on ne va pas aller au bout.
Pour reprendre la dernière vainqueuse, et ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur l'ISB ni quoi que ce soit, mais en fait, elle avait déjà un produit qui tournait déjà, qui était bien avancé. Des fois, c'est même pas créé. Des fois, il y en a qui arrivent, ils ont déjà le projet. Et en fait, ils viennent pour recruter vraiment une équipe.
Alors, ça, on l'a présenté un peu plus l'année dernière. C'est qu'on était, c'est la première année d'ailleurs au Startup Weekend où on fait venir dans l'organisation du Startup Weekend. Il y a un truc qui est recommandé, c'est le facilitateur, qui est normalement quelqu'un d'extérieur qui vient aider l'organisation avec du 109 et c'est lui qui fait l'animation. Jusque là, c'était Damien, qui est un Toulousain, donc même s'il s'est expatrié à Paris, donc pour la première fois, on a quelqu'un d'extérieur. Et Bernabé a dit, il faut mettre à plat les règles et les présenter aux participants. Et ça, c'est une règle qu'on a vraiment mis à plat, c'est on ne peut pas mesurer un taux de maturité d'un projet en entrée. Par contre, les participants, c'est à vous de ressentir l'ouverture du porteur, s'il est capable ou pas d'intégrer des gens dans son équipe, de remettre en question son idée. Et en fait, c'est le filtre se fait par les participants eux-mêmes. Et donc, même si on ne l'a pas bien présenté comme ça l'année dernière, c'était quand même le cas avec l'ISB. Il y a eu pas mal de réflexions pendant le week-end. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, elle cherchait un peu de monde pour l'aider. Mais elle a avancé sur son projet pendant le week-end, mais les personnes qui étaient venues avec elle dans l'équipe n'avaient pas prévu de se lancer dans une aventure start-up après. Donc, pour le coup, ça ne lui a pas servi à recruter.
Quels sont les principaux critères, en fait ? Parce que finalement, on parlait d'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, quoi. Donc ça, c'est pas évident de le juger sur un week-end. Et donc, c'est ça qui va faire aussi que le projet va durer. Le travail en équipe, enfin, comment vous arrivez à sentir ce
le critère de
potentiel.
Base pour ressentir un potentiel, c'est est-ce que l'équipe a été capable de s'assurer que leur concept s'appliquait vraiment à des gens. Et c'est ça la difficulté. Et on leur met
la viabilité du projet auprès de ses utilisateurs.
Exactement. On leur a mis beaucoup de coups de pied aux fesses pour si c'est vraiment un sujet très grand public, ben, y a le marché de Jeanne d'Arc juste à côté. Donc hier matin, ils sont allés embêter les gens au marché et poser des questions. Et d'autres ont passé des coups de fil. Mais l'idée en plus, c'est de poser des questions sans apporter les réponses. On leur demande, mais comment vous êtes consommateur de tel sujet ? Dans votre consommation, est-ce que vous avez un frein ? Est-ce que ce frein, vous le surmontez déjà ? Et si vous le surmontez, qu'est-ce que ça vous coûte ? Et l'idée étant que s'ils ont un coût déjà induit par le besoin de surmonter un frein, ben si on vient là-dedans avec un sujet de start-up, il y a de fortes chances que ça décolle facilement.
On va pas te poser la question de savoir quel est ton favori. C'est vraiment pas notre idée.
J'ai pas vu toutes les équipes. Je dois
non, non, en plus, non, mais en plus, c'est à cette heure-ci, donc on ne sait toujours pas qui est le vainqueur et on se réserve la neutralité. C'est plus drôle.
Je suis pas juré.
Mais
t'as vu des choses qui t'enthousiasment quand même.
En ce sens, est-ce que
j'ai vu beaucoup de cartons, de packs d'eau.
Oui, ça c'est normal.
Des paquets de gâteaux.
Et du café. Et du café.
Le travail d'orga est assez lourd, mais. Il y a aussi donc ce mode de pensée qui est très à l'américaine sur la manière d'animer et tout ça. Est-ce que ça freine pas certains ?
Non, je pense sur l'animation, tu veux dire au sens Startup Weekend du modèle de l'événement ?
Ouais.
Alors, ce qui est marrant, je pense pas justement, et c'est ça qui, par rapport, moi, je suis dans pas mal d'événements toulousains de création de concepts comme ça très très en amont, et il y a une il y a une différence au Startup Weekend de, justement, on casse beaucoup de codes, justement, sous prétexte que c'est un concept américain, on s'autorise pas mal de choses et ça, au contraire, ça débride les gens. Ça répond pas à toutes les problématiques, mais dans le cadre de ce week-end, ça permet à beaucoup de gens de s'ouvrir sur de nouveaux trucs.
On a un problème de culture sur le fait d'oser, quand même.
De moins en moins, ouais. À mon sens, de moins en moins. Mais en fait, c'est d'oser et de d'oser en sachant comment oser et pas faire n'importe quoi et au final se fatiguer.
Julien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci.
Et merci d'être venu nous voir.
Tu peux nous chercher suivant. C'est la galopade.
Ils arrivent.
Étienne de Crécy, 3-day weekend.
A 3-day weekend on my mind. A 3-day weekend in the sunshine. A 3-day weekend on my mind. A 3-day weekend in the sunshine.
day weekend in the sunshine.
Etienne de Crécy, extract from the album Tempo Vision. You're listening to Radio FMR. It's CPU, Carré Petit Utile. And please, Chris, let's start to talk in English. It will be a little bit difficult with your interviewer. Yeah?
On reste français.
Ouais, je crois que c'est mieux.
C'est le défi pour moi, but c'est mieux pour les auditeurs.
Ah, mais sinon, tu ne serais pas là comme ça gratuitement.
CPU. Petit utile.
Bonjour et bienvenue à CPU. Je suis ici avec Bernabé qui venait de Lyon. Raconte-moi ton histoire à propos des startups Lyon.
Alors, bonjour déjà. Moi, Startup Weekend, j'ai connu à Lyon en 2012. Et en 2012, des amis à moi qui étaient entrepreneurs savaient que j'étais intéressé par l'entrepreneuriat, que je finançais aussi des startups. Je commençais tout juste. Ils m'ont dit, viens, c'était une expérience incroyable. Mm-hmm. J'ai participé et clairement, le truc qui m'a marqué, qui m'a choqué, c'est que les compétences que j'avais acquises les 15 années d'avant au niveau professionnel m'ont pas servi à grand chose. Mm-hmm. Et par contre, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des trucs dont j'étais absolument pas au courant. Mmh. En 48 heures, en 54 heures, avec des gens que je ne connaissais pas, partir d'une idée et arriver quasiment à créer un projet d'entreprise.
Mmh. Et depuis que vous avez commencé dans le monde des startups, vous avez remarqué quoi a changé en France avec l'énergie pour les startups, le nombre de startups
Alors clairement, quand j'ai commencé, c'était il y a quasiment 5 ans, c'était en transition, l'entrepreneuriat est devenu cool. Mm-hmm. C'est clair, en France, l'entrepreneuriat est devenu super cool. C'est devenu...
Vous écoutez Radio FMR, une radio de punk et chien, je rappelle.
Ah, oui.
Donc c'est vraiment devenu tendance, les gens ont commencé à en parler de plus en plus. Est-ce que c'était de l'entrepreneuriat style de vie, lifestyle, ou c'était plutôt par envie de donner du sens soi-même plutôt que celle d'une entreprise, d'une grosse entreprise. Il y avait beaucoup de choses, je pense, avec aussi un peu la crise économique, mais en tout cas, mm-hmm. ce qui est sûr, c'est que l'énergie autour de l'entrepreneuriat a quand même énormément évolué. Et aujourd'hui, parler d'entrepreneuriat, quand on est étudiant, c'est quasiment normal.
Oui. Well, c'était une surprise pour moi parce que avant je suis arrivé en France l'année précédente. J'ai entendu tout le temps que la France est contre les startups ou n'aime pas les startups ou le gouvernement il n'y a pas le soutien pour les startups. But depuis je suis arrivé, j'ai trouvé quelque chose de très différent.
C'est clair, je pense que même jusqu'au niveau du gouvernement, ils ont compris l'intérêt et l'engouement pour l'entrepreneuriat et l'intérêt, je pense aussi, pour l'économie. Je pense qu'on peut citer la démarche French Tech, qui aussi démarre dans plein de villes. Donc on voit bien qu'il y a un engouement et que même au gouvernement, ils ont je pense, compris qu'il y avait quelque chose là à saisir.
Oui. So, on parle maintenant à propos de Startup Weekend. Vous êtes en Toulouse pour cet événement, mais tu travailles avec l'autre équipe de Startup Weekend. Décris pour moi la taille le niveau de la Startup Weekend traversée en France.
Alors, Startup Weekend a démarré tout doucement, on va dire, mais dans les premiers pays quand même, après les États-Unis, en 2010, avec quelques villes, dont Toulouse, je pense, est dans les précurseurs, Toulouse et Paris. Ensuite, ce que je peux dire, c'est qu'en Europe, la France est le pays le plus actif en matière de Startup Weekend. Mmh. Moi, j'ai démarré à Lyon, je suis facilitateur. Il y a un écosystème qui se construit autour de Startup Weekend, mais c'est valable dans d'autres villes. Et à Toulouse, avec la 7e édition, on est quand même dans une dynamique assez forte.
Oui, et pourquoi France est le plus actif à Europe?
Alors ça, c'est justement une question qu'on vient de me poser il y a quelques jours. Le responsable Europe sur Startup Weekend me dit, il y a un truc que je ne comprends pas, comment ça se fait que vous faites, que vous fassiez autant d'événements en France et que la dynamique en fait est en croissance. Oui. C'est-à-dire qu'au sein même des villes, on voit qu'il y a de plus en plus de groupes qui font des Startup Weekend, y compris donc au sein même d'une ville avec des maintenant ce qu'on appelle des verticales, donc des gens qui font des Startup Weekend avec un thème, un secteur d'activité plus spécifique, et donc le nombre augmente. Concrètement, pour l'instant, c'est encore un mystère, même pour le directeur Europe.
C'est un bon mystère, c'est sûr.
Voilà.
À le moment, il y a toujours la question pour France et pour les autres pays en Europe. C'est mieux pour toutes les startups se concentrer dans une seule ville comme Paris ou Berlin ou Londres. Ou c'est mieux pour diffuser la vie différente. Vous avez une vie...
Oui, alors là-dessus, on est plutôt dans le cadre de Startup Weekend, on est maintenant avec Techstars. Techstars, c'est un écosystème lui-même. Et les méthodes qu'ils utilisent de développement, et c'est peut-être pour ça qu'en France ça marche bien, je ne sais pas, on est dans une logique de développement d'écosystème. Et donc, il y a comme une baseline qui est Start a company where you live. Donc, ce n'est pas l'idée justement du super hub où tout le monde va se retrouver. C'est plutôt de développer sa communauté, développer la richesse, la diversité de la communauté et les connexions entre les personnes. Donc, on est plutôt dans une logique, y compris dans Startup Weekend, où on va aller chercher, par exemple, des participants d'horizons le plus divers possible et pour les mettre ensemble, pour créer des choses et faire que les choses arrivent et que, comme on dit, magic happens. Mm-hmm. C'est vraiment, je pense... pas la logique. Oui, bien sûr que quand on a un écosystème très dense, on fait plus de choses. Mais c'est pas pour autant qu'on va désertifier toute la France juste pour avoir un seul tech hub ou startup hub à Paris. Je pense que la démarche Startup Weekend, on est dans, à mon avis, une trentaine de villes en France. C'est plutôt de développer ces écosystèmes.
Oui, oui. Tu travailles aussi avec l'investissement pour les startups. Comment décrire ce travail? Tu fais l'investissement ou tu aides avec les autres à découvrir l'investissement?
Alors, je fais deux choses, en fait. À titre professionnel, je travaille dans un réseau associatif de financement de la création d'entreprises, donc vraiment en amorçage, au tout début. Donc là, c'est un système non lucratif. C'est bizarre de dire qu'on fait du financement et qu'on est non lucratif, mais ça marche comme ça. C'est un réseau assez puissant et donc on voit que voilà, ça se développe au niveau entrepreneuriat innovant. Et puis effectivement, à titre privé, à titre personnel, je suis aussi investisseur. Alors pas tout seul, parce que je ne suis pas franchement riche, mais avec un certain nombre d'entrepreneurs lyonnais, on a créé effectivement un petit fonds d'investissement qui est en train de grossir de plus en plus. Mais on finance aussi quand même très tôt. On est plutôt dans ce qu'on appelle le early stage. Donc on n'est pas tout à fait au tout début, hein, l'amorçage, mais on est quand même dans la première année ou les deux premières années.
Et ce fonds concentré seulement sur Lyon ou juste de France en général?
Alors, Nous, on est basé à Lyon et le principe, c'est d'intervenir dans des sociétés dans lesquelles on peut avoir des contacts, on peut apporter quelque chose. Donc, on investit dans les sociétés lyonnaises, mais aussi celles qui sont à moins de 2 heures, on va dire. Alors, il se trouve que Paris est à moins de 2 heures, donc on a aussi des sociétés parisiennes.
Ça aide pas des masses, excusez-moi, j'ai coupé mon micro. mais surtout, c'est comment on peut encore parler de levée de fonds, tu vois, pour des startups, mm-hmm. alors qu'on est à une époque où pas mal se tourne vers le crowdfunding.
Alors, le crowdfunding, il y a, moi, je pense que c'est une super opportunité. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont envie de donner du sens à leur épargne et qui ont envie d'investir dans des startups. Ils ne savent pas forcément comment et ils passent par ces plateformes de crowdfunding en equity. Alors, il me semble qu'il y en a une à Toulouse qui est bien connue. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Le crowdfunding sert à plein d'autres choses, notamment sur les plateformes de dons où on peut tester son marché. C'est très différent. Il n'y a pas, pour moi, de concurrence entre les business angels, les fonds d'amorçage ou les fonds de early stage et le crowdfunding. C'est assez complémentaire. Moi, sur les projets que j'ai vus sur cette fameuse plateforme toulousaine, sur des projets lyonnais que je connais, il y a du cofinancement en réalité.
Est-ce qu'il y a des villes où ça démarre mieux, où l'esprit des Startup Weekend et où finalement les entreprises qui s'y prototypent démarrent mieux que d'autres?
Alors, il y a deux questions, en fait, dans cette question. Parce que la première, déjà, c'est Startup Weekend, c'est un programme pour les entrepreneurs. Et donc, on est là pour aider des entrepreneurs à gagner en confiance par l'action. C'est no talk, all action. On est vraiment dans cette idée-là. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de projets qui sortent du Startup Weekend, qui vont être créés, qui vont être des méga startups. Il y en a, mais par rapport aux dizaines de milliers de projets qui sont sortis depuis 2007 dans le monde, il n'y en a pas non plus un pourcentage extraordinaire. Parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est plutôt de faire passer d'un état « je suis entrepreneur naissant ou pas tout à fait encore, je m'intéresse à l'entrepreneuriat, j'ai besoin de savoir si je suis fait pour, je fais un start-up week-end et je gagne en confiance, en expertise, en connexion avec d'autres potentiels associés. » Donc, on n'est pas une start-up factory. Hein, ce n'est pas l'idée de créer des start-up. Par contre, là où ça démarre bien, c'est là où l'écosystème est dense. C'est-à-dire là où, après Startup Weekend, il y a aussi des structures d'accompagnement, des incubateurs ou des accélérateurs, des fonds d'amorçage, des entrepreneurs qui se mouillent en tant que mentors pour accompagner des startups. Bref, une diversité, une richesse de l'écosystème. C'est là où on fait le relais. Nous, on est plutôt au niveau inspiration des entrepreneurs. Le programme Startup Weekend, il n'est pas fait pour créer et produire des startups comme une usine à fabrication de startups.
Et en fait, traverser France, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'accélérateurs, incubateurs qui ont relancé le 1 ou 2 années passées. Ça a aidé le monde de startups en France ou c'est trop tôt pour se voir?
Alors, il y a beaucoup d'incubateurs et d'accélérateurs qui se créent. C'est vrai que tous ne sont pas du même niveau de qualité. Je pense que ça suit la tendance. Quand je disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est cool, c'est devenu tendance. Et aujourd'hui, dans la foulée, on a aussi plein d'incubateurs qui se créent, d'accélérateurs qui se créent. Je pense qu'il y aura... Il y a encore de la place pour que des nouvelles structures se créent, mais surtout, dans quelques temps, il y aura une sorte de restructuration. Les meilleurs survivront, les autres disparaîtront. Mais je pense que c'est important que cette dynamique existe, parce que ça professionnalise et on a besoin de ça.
Oui. Et pour les entrepreneurs en général en France, quoi d'autre défi reste toujours pour le succès?
Alors, bon, je ne pense pas que ce soit le seul sujet, mais un des sujets qui me fait beaucoup rire dans les Startup Weekend, c'est que nous, on a notre slide deck, notre présentation tout en anglais. Et je vois qu'il y a, encore pas mal de réticence à ne serait-ce que lire, parce qu'on présente en français, mais tout est écrit en anglais. Donc le côté
c'est,
ambition...
C'est imposé par l'organisation et ça doit être ces slides-là ou c'est toi qui se dit non, il faut que ce soit en anglais pour...
Alors... Il y a des organisateurs, je sais, à Marseille qui ont fait la traduction en français de ce slide deck. Donc, c'est cool. on n'est pas spécifiquement obligé. C'est plutôt une ressource qu'on nous apporte pour simplifier notre travail. Hein. S'il fallait tout réinventer à chaque fois, ce serait compliqué. Ouais. Moi, je le laisse en anglais parce que, effectivement, on est un mouvement global, c'est-à-dire mondial. Startup Weekend. On a des ramifications partout. Si on veut aller à San Francisco, on parlait de San Francisco en aparté, y a des gens Startup Weekend partout et on est accueilli en un mail. On peut avoir un contact sans problème. Donc, pensée globale, pour moi, c'est super important.
Well, merci beaucoup pour votre temps et pour visiter Toulouse et profitez bien de la journée et merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Barnabé. On va écouter un pitch. Non mais je déconne pas en plus. Et donc, le morceau s'appelait Build High, extrait de la bande démo des Pixies, qui donc a été fait en 1987 et que donc on a pu enfin écouter en 2003. Et oui, bah, comme quoi, un morceau court, ça suffit des fois pour lancer le truc.
C'était carré et petit utile.
Le dernier invité est en train de regarder Solarus qui est en train de s'étouffer. Je crois qu'il... Arrête. Appelez les secours, on a un problème avec Solarus. Il a pas compris que le...
Je crois.
Non, mais je crois que le pitch en une minute, il a pas compris que c'était pas manger un pitch en une minute. Bah oui, c'est à toi.
Oui.
Bah présente ton invité.
Très bon, très très bon. Je vais l'aider. Je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, mais je me rappelle encore mon nom.
Bonjour.
Bonjour. Voilà. À vous.
Allez.
Donc. Ça arrive.
Des fois, ça se
passe. J'ai pas de micro, je crois. Si, c'est bon.
Alors, ouais, vas-y. Ouais.
Donc, David, bonjour. Tu es avocat.
C'est
et
ça.
Tu évolues dans la sphère des startups. Tu es bénévole au Startup Weekend. Tu as commencé comme bénévole, tu me disais.
C'est ça. En fait, j'ai commencé. Le premier Startup Weekend à Toulouse a été organisé par Willy Brown, que certains connaissent dans la communauté, qui a bien grandi depuis le petit, puisque il a été secrétaire général de France Digital et qu'il est maintenant. Il y travaille maintenant dans le fonds d'investissement Daphne, qui a été fondé par Marie Eklund, qui était auparavant dans un autre fonds d'investissement, Elia Partners. Et puis moi, il m'avait sollicité pour être coach juridique pour les équipes. Et puis petit à petit, moi je viens d'une famille un peu paysanne, donc on ne laisse pas les gens rien faire. Donc j'ai donné un petit coup de main, c'est ce que je disais à Solarus. On sort les sacs poubelles, etc. Et puis petit à petit, je me suis intégré dans l'organisation. Et puis maintenant, je suis co-organisateur très actif depuis 4 saisons sur le Startup Weekend, ce qui est une manière aussi de rendre à la communauté ce que la communauté m'a offert, puisque je travaille beaucoup avec des startups. J'ai commencé ce métier d'avocat il y a maintenant 10 ans, et j'ai commencé dans un cabinet qui travaillait beaucoup avec des entreprises innovantes. Et voilà, je me suis retrouvé à accompagner des porteurs de projets qui sortaient notamment de l'incubateur, des sujets très techno. Et petit à petit, je me suis intégré dans cet écosystème et je pense que les gens aussi apprécient mon intervention, je l'espère en tout cas.
Le fait d'organiser, alors toi tu as regardé, c'est comment c'est se dire non, ils vont se planter ou ils vont se planter.
Ni l'un ni l'autre. Non, ni l'autre. Alors, il faut savoir, le Startup Weekend, les espérances et les attentes des participants sont très différentes. sont très différents, pardon. Certains sont vraiment dans la compétition et veulent gagner. Et on l'a vu sur les éditions précédentes particulièrement. Et d'autres sont là, à mon avis, pour ce qui fait le sel du Startup Weekend, c'est-à-dire avant tout une aventure humaine. Confronter son idée dans un environnement finalement très bienveillant, mais bienveillant ne veut pas dire non plus coulant, et si l'idée qu'on développe n'est pas terrible, les coachs ou les mentors ou les jurys sauront le dire. Mais c'est surtout se confronter à d'autres types de profils, rencontrer des personnalités ou des personnes qui travaillent dans des secteurs qui ne sont pas du tout les nôtres. C'est particulièrement vrai des étudiants, puisque quand on fait une école d'ingénieur, on croise rarement les gens qui sont à Toulouse Business School ou peut-être éventuellement dans un bar, mais professionnellement.
Donc il y a un aspect, il y a un aspect réseautage, vraiment rencontrer du monde, vraiment peut-être
décloisonnage, je dirais.
Décloisonnage, d'accord.
C'est parce que le système français est très cloisonné. Il n'y a pas de campus à l'américaine, donc les gens se croisent pas, les talents et les formations ne se croisent pas malheureusement.
Il faut rencontrer là où les personnes qui vont peut-être faire avancer le projet ou qui vont permettre de rencontrer la personne qui va faire avancer le projet, quoi.
Exactement.
Il n'y a pas que de la technique, peut-être, et il y a beaucoup d'humains, je pense, dans le lancement
du
start-up.
Tout à fait. Mais c'est ce qu'on essaye de faire passer aussi à travers le Startup Weekend, c'est que beaucoup de start-up font du storytelling et mettent en avant leur tête de pont, leur président ou leur fondateur. Mais une start-up ne réussit que parce qu'il y a une équipe de qualité.
Ouais, ça, c'est une critique qu'on fait beaucoup aux start-up, c'est-à-dire qu'il y a. On a l'impression des fois qu'ils communiquent plus que... Ils bossent beaucoup sur la communication et pas assez sur le projet en lui-même. Il y a un designer d'Apple qui disait « Don't tell, just show. Don't promise, just deliver. »
Heureusement que Chris est loin, je crois que...
Donc voilà, donc, à un moment, il faut peut-être arrêter de communiquer, arrêter de parler et montrer des choses. Et est-ce qu'il y a beaucoup de start-up qui arrive à justement à franchir le pas de juste faire de la com et à un moment d'avoir quelque chose à proposer, d'avoir quelque chose à montrer.
C'est une très très bonne question. On voit les deux choses. Malheureusement, il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'on vit à mon sens dans une société où la communication est reine et bien souvent, bien trop souvent, la forme prend le pas sur le fond. Malheureusement, la communication, même si on n'aime pas ça, c'est quand même un mal nécessaire. On ne peut pas faire un produit de son côté, dans son coin, dans son garage, et espérer que quelqu'un le découvre et l'achète ou utilise le service qu'on a développé. Donc la communication est considérablement nécessaire. Et c'est vrai que lorsqu'on est face à des startups qui ne font que communiquer, qui n'annoncent que leur levée de fonds, qui sont dans le tweet ou dans la page Facebook, mais que derrière ça ne suit pas, c'est un petit peu décevant. Cela dit, on en connaît, hein, certains gourous des startups à Toulouse ou même en France sont très très forts en communication. Sont très très forts pour lever des fonds, mais parfois dans l'exécution c'est un petit peu plus compliqué.
Tu penses à iTrust?
Je pense pas du tout à iTrust.
On balance pas.
Je balance pas. Non,
en plus, on va avoir des problèmes en plus.
Non,
parce qu'il est grand.
Plus c'est des potes et ils savent que je les chante. C'est normal. Mais des fois, il y a aussi tout axé sur la communication. Des fois, c'est aussi refuser des fois la critique. Et c'est s'enfermer un peu de ce côté-là.
Je ne sais pas si c'est refuser la critique. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour éviter la confrontation. C'est peut-être aussi parfois pour masquer des manques et en tout cas c'est pour occuper le terrain. Mais c'est vrai que quand à un moment lorsqu'on ne fait que communiquer et qu'on est out of premise, ça devient un petit peu compliqué.
Donc on l'a dit, tu es plutôt dans le droit des affaires, tu coaches un peu les startups là-dessus.
Ouais.
Quand on veut devenir le nouveau Google français ou le nouvel Apple européen, est-ce que, notamment je pense à la propriété intellectuelle et le droit des brevets, est-ce que ça peut intimider des gens innovants qui ont des idées techniques mais qui pourraient se dire peut-être que Google ou Samsung l'a déjà breveté, est-ce que ça vaut le coup que je me lance là-dedans?
Je pense que Google ne s'est pas créé sur des brevets, en fait. Si vous voulez, il y a très peu de brevets qui sont vraiment innovants et qui sont un vrai frein à l'innovation. Le brevet, en fait, donne un monopole d'exploitation à celui qui est propriétaire de l'invention. Mais vous, vous, vous protégez une invention. Si vous arrivez au même résultat avec un procédé technique différent, vous ne serez pas contrefacteur du premier brevet. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de brevets marketing. Ça vient des États-Unis où l'Office des brevets a accepté de breveter tout et n'importe quoi.
Ce qui n'est pas brevetable en France, notamment les formules mathématiques et effectivement les méthodes de business.
Mais plein d'autres choses, ouais. La manière de passer d'une page à l'autre en utilisant son doigt sur un écran tactile.
Voire même des thèmes extrêmement vagues, ça c'était très bien expliqué par Ferguson dans sa suite documentaire sur les idées. Un procédé informatique pour faire tel truc.
Exactement, et en fait ça a donné naissance à ce qu'on appelle les troll patents. En fait, c'est des gens qui sont propriétaires de brevets, qui les mettent dans une boîte qui est une société et qui n'a d'autre que vocation que d'attaquer en justice ceux qui souhaiteraient faire quelque chose de comparable.
D'accord. Donc ça, c'est pas vraiment un frein pour
ceux
qui voudraient
se lancer.
Non, à mon
sens, c'est pas un frein. C'est vraiment pas un frein. Il faut y aller. Après, on peut avoir des obstacles juridiques qui peuvent se dresser contre vous, mais finalement. C'est une contrainte avec laquelle il faut travailler, comme la contrainte argent, comme la contrainte temps, comme la contrainte concurrence.
Justement, la contrainte argent, les banques, est-ce qu'elles arrivent facilement à financer une start-up ? Parce que je discutais donc avec un patron d'une petite entreprise qui me disait que la banque, elle ne finance pas les salaires. C'est-à-dire qu'elle peut financer du matériel, elle peut financer le lancement d'entreprise. Par contre, il faut assez vite trouver un business model pour... À la limite, rester en auto-entrepreneuriat, mais dès qu'on veut un ou deux salariés, il faut un financement et ce n'est pas la banque qui va l'apporter. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de start-up qui arrivent à sortir de ce modèle de l'auto-entrepreneur, du gars qui est tout seul, qui va lancer son idée ? Est-ce qu'il y a des difficultés là-dessus ?
Alors, on a un problème de financement en France. Effectivement, je pense que les banques ont un problème pour financer l'économie, mais en général, pas les start-up simplement. Je pense qu'on a des attitudes très conservatrices. Et la problématique, c'est que alors, je ne vais pas forcément me faire des amis, mais peu importe. Le profil des banquiers se dissémine à travers tous les ports de l'économie. On les retrouve dans des directions financières, on les retrouve dans les fonds d'investissement. Et on a des approches très frileuses. Et à mon sens, toutes les liquidités qui sont balancées par la Banque Centrale Européenne, on a du mal à les retrouver dans l'économie. Donc ça, c'est un vrai souci. Et pour en revenir sur le sujet des startups, le premier financeur de start-up en France, c'est Pôle emploi.
Oui, tout à fait.
Beaucoup de gens créent leur entreprise en demandant le maintien de leurs allocations chômage.
Surtout que maintenant, c'est plus la moitié de l'allocation chômage, c'est l'intégralité en fait du solde.
C'est l'intégralité, ouais, effectivement. Ouais. En fait, on a toujours le choix de le demander soit en capital, soit avec une décote, soit sous forme de rente pendant sa période d'indemnisation, avec une petite décote également, mais un petit peu moins forte. Mais ça, c'est vraiment le premier fournisseur de fonds. Et puis ensuite, lorsqu'on se développe, souvent on fait appel à la famille et aux amis, ce qu'on appelle la love money, qui permet de lever jusqu'à entre 5 et 30 000 euros. Et puis après, soit on a un business model, soit on a besoin de scaler un petit peu. Et si on a besoin de temps pour augmenter son équipe, bah on va chercher des business angels qui vont fournir le premier tour de financement.
Ok.
Une petite dernière pour la route.
Oui. Je vais essayer d'être court.
Si l'un de ceux qui va se présenter décide de vraiment monter sa boîte, toi en tant que juriste, quel est le premier conseil ?
Quel est le premier conseil ?
Ouais.
Vérifiez bien que les gens que vous avez dans votre équipe sont motivés à fond pour continuer l'aventure, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'apercevoir 6 mois après qu'on a pris un associé qui n'est pas du tout en phase avec le projet et qui n'a pas la même implication que les autres.
Merci beaucoup, David Morel.
Merci.
Merci à vous.
C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Das Critch, Chief Pitching Officer, Myriam Chow, Chief Pitching Officer, Chris O'Brien, Chief Pitching Officer, Solarus, Chief Pitching Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de eArtSup, de l'association Startup Weekend Toulouse et de Radio FMR. L'intégralité du programme, des extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. prochaine release, nous recevrons les gagnants. And the winner is enregistré à partir de chez nos amis de Epitech, d'ailleurs, si vous voulez venir. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Chez nous, ça sent la pizza, mais nous cédons la place à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Ciao, bye bye. C'était quoi ton pitch, toi ?
Mon pitch à la fraise. Non, mais sinon...
C'est ça, ouais.
Ouais. Non, mais je vais me lancer dans le B2B2C.
B2B2B2C. En fait, c'est les mecs qui revendent les données personnelles accumulées par les espaces publicitaires, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, ça, je m'en doutais. À toi, Monique.